Chapitre 58. Solman, Wolf et Moram retrouvèrent Khadija au bout d'une demi-heure de recherche, allongée au pied d'un arbre, livide, le menton et le haut de la robe barbouillés de vomissures. Elle ne réagit pas lorsque Solman se pencha sur elle et lui nettoya le visage à l'aide d'un bout de tissu imbibé d'eau. La forêt bruissait de craquements, de grattements, de cris d'animaux. Les rayons du soleil se pulvérisaient sur les frondaisons et tombaient en poudroiement lumineux sur les fougères et la mousse. « On devrait foutre le camp, » dit Moram en triturant la crosse d'un de ses revolvers. « J'aime pas l'ambiance de cette forêt. » « Il a raison, » renchérit Wolf. « Nous serons plus en sécurité dans le camion. » « Elle n'a pas encore la force de marcher, » objecta Solman. « Il n'y a qu'à la porter jusqu'à la remorque, » proposa le chauffeur. Solman hocha la tête et essuya rapidement les souillures de la robe. Khadija ne bougeait toujours pas, recroquevillée sur elle-même, visiblement choquée, aussi tremblante qu'un faon terrorisé. Revenus près du camion, Wolf et Moram l'allongèrent sur la couverture que Solman était allé chercher dans la remorque. Bien que Khadija fût d'une légèreté surprenante, le trajet du retour avait mis les deux hommes en nage. Moram retira sa chemise, but une généreuse rasade au goulot de la gourde et s'aspergea le torse de quelques gouttes d'eau. Wolf se contenta d'une petite gorgée qu'il garda un long moment en bouche avant de l'avaler. Ismaïl descendit de la cabine où il s'était enfermé en les attendant, et se pencha sur Khadija pour l'examiner. Elle présente les symptômes caractéristiques d'une indigestion, dit-il en se relevant. Mais ça ressemble plutôt à une allergie. Comme si son organisme ne tolérait aucun élément extérieur. Les galettes et les fruits commencent à virer au rance, avança Moram. Peut-être qu'elle a tout simplement l'estomac fragile. Sûrement pas. Aucun de nous n'est capable de survivre au poison des plantes grimpantes. Ses défenses immunitaires sont incomparablement plus efficaces que les nôtres. Tellement efficaces, d'ailleurs, qu'elles se mettent en action dès qu'elles détectent un corps étranger. Ils différèrent le moment du départ jusqu'à ce que Khadija se soit remise de son malaise. Les insectes pullulaient autour d'eux dans un vacarme assourdissant. L'humidité de la terre s'évaporait sous les feux du soleil, les formes lointaines dansaient dans les effluves de chaleur. Les fleurs et les bourgeons s'épanouissaient pratiquement à vue d'œil. L'activité fébrile des règnes animal et végétal transformait les alentours en un gigantesque chantier, comme si, débarrassés de l'hégémonie des hommes, insectes et plantes avaient décidé de reconstruire un monde à leur image, à leur échelle. Des millions d'architectes, d'ouvriers, de jardiniers œuvraient sur les flancs de la colline, sur l'herbe de la plaine, dans l'ombre de la forêt, répandaient les semences, fécondaient les sols. La plupart d'entre eux mourraient avant de toucher les dividendes de leur labeur, mais, contrairement aux humains, ils acceptaient d'être les expressions de l'éphémère, les maillons d'une chaîne dont ils ignoraient l'origine et la finalité. De temps à autre, des hardes d'animaux sauvages, sangliers, cerfs, vaches, franchissaient le ruban paresseux de la rivière dans un éclaboussement scintillant, suivis à quelques minutes d'intervalle par leurs prédateurs naturels, chiens et lynx. Pour Solman, le monde nouveau qui naissait sur les ruines de l'ancien avait toutes les apparences d'un paradis reconstitué. Étendu sur la couverture, les yeux clos, les mains croisées sur le ventre, Khadija semblait peu à peu se détendre, recouvrée des couleurs. « Benjamin atterrira dans 2 jours, » murmura-t-elle. « Le jour du rassemblement ?» demanda Solman assis à son côté. Elle se redressa sur un coude et lui agrippa le poignet. « La tribu est partie hier. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Si au moins on savait combien de kilomètres il nous reste à parcourir. Soupira Moram, appuyé contre l'aile du camion. Les tribus ont prévu de se rassembler dans la forêt de l'Île-de-France, dit Khadija.
L'Île-de-France. On ne doit pas en être très loin, entre 100 et 150 bornes, estima le chauffeur. Avec de la chance, on aura assez de gaz pour y arriver. Après, c'est une autre paire de manches. Les rares aquariotes qui se sont aventurés à l'intérieur de cette putain de forêt n'en sont jamais revenus.
Moram frémissait déjà à l'idée de s'enfoncer dans le cœur d'une végétation impénétrable et parée par les légendes nomades de tous les maléfices. Les chauffeurs aquariotes préféraient faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres plutôt que de passer à proximité de ces arbres qu'on prétendait intelligents, envoûtants, machiavéliques. Les autres grandes forêts d'Europe avaient aussi leurs légendes, mais même si aucun nomade n'aurait accepté de s'y hasarder, pas une d'elles ne suscitait une telle épouvante.
« On te demande seulement de nous y conduire, » dit Solman. « Une fois là-bas, personne ne t'obligera à nous accompagner. »
Moram enfila et boutonna sa chemise avec une nervosité proche de l'exaspération. Puis enfonça ses revolvers dans la ceinture de son pantalon.
« J'irai avec toi en enfer, s'il le faut, donneur. Aura veut pas d'un homme qui détale comme un lapin en premier bruit. Et moi non plus, j'en veux pas. »
Franchir la rivière leur coûta beaucoup plus de temps que prévu. Ils durent l'allonger sur une dizaine de kilomètres pour chercher un passage. Les visions concertées de Solman et de Wolf n'ayant apporté aucune précision, ils s'arrêtaient régulièrement pour sonder l'eau à l'aide d'une branche taillée. Puis, alors qu'ils venaient d'effectuer un large crochet afin de contourner une paroi en apic, ils repérèrent un endroit où les rives se resserraient, où les roches gris clair affleuraient à la surface ondoyante. Wolf inspecta d'abord le gué à pied. Une fois parvenu de l'autre côté, il agita les bras pour indiquer à Moram qu'il pouvait engager le camion. Par mesure de précaution, le chauffeur se rendit à la remorque pour prier les trois passagers de descendre. Il eut l'impression, en croisant le regard de Khadija, qu'elle avait vieilli d'une dizaine d'années. Il ne s'agissait pas vraiment d'une dégradation physique, mais quelque chose dans l'allure, dans l'expression, la faisait paraître plus marquée, plus âgée. Elle ressemblait à ces enfants qu'on a chargés d'une responsabilité écrasante, au donneur, à Solman, à Glenn, à Aura. Même contraste entre l'apparence juvénile et la gravité du regard. Moram attendit qu'ils aient tous les trois traversé pour démarrer et avancer au ralenti. Il parcourut sans difficulté la moitié du trajet, puis un rocher se déroba sous ses roues. Et le camion pencha avec une telle soudaineté qu'il dut se raccrocher de toutes ses forces au volant pour ne pas être précipité contre la vitre de la portière. Il rétrograda avant même d'être revenu en place et écrasa de tout son poids la pédale d'accélérateur. Seule la puissance du moteur pouvait maintenant briser la spirale d'inertie. L'eau submergeait déjà l'aile avant droite et une partie du châssis de la citerne. Le hurlement du moteur n'empêcha pas le camion de continuer à se coucher. «
Putain de saloperie, tu vas te bouger !» fulmina Moram.
Il passa en première, donna de petits coups d'accélérateur, vit du coin de l'œil la surface de l'eau se rapprocher dangereusement de la portière. En sueur, il s'appliqua à maîtriser ses nerfs, à se concentrer sur les bruits, sur les vibrations, les plus précieux des indicateurs pour les chauffeurs. Combien de fois avait-il prédit une panne rien qu'en décelant un grincement sous-jacent dans le ronronnement d'un moteur? Il discerna le crissement aigu de la roue qui tournait à vide dans la vase, puis un choc à peine perceptible. Comprit qu'elle venait de toucher une surface dure, accéléra progressivement cette fois, en espérant que le moteur ne calerait pas. La moitié de la calandre sous l'eau, le camion avança par secousses. Escalada les fragments du rocher brisé, plongea de nouveau sur le côté, puis la roue droite rencontra une pente douce.
il recouvra peu à peu son équilibre et, ruisselant le bas de la caisse maculée de boue, se hissa sur la rive opposée.
« Tu ne te débrouilles pas trop mal avec un volant !»
dit Wolf après que Moram eut dévalé le marchepied et se fut longuement abreuvé à la gourde qu'il avait arrachée des mains d'Ismaïl.
« Chacun son don, Scorpiote. J'ai appris à conduire parce que j'étais pas bon à grand-chose d'autre.
Seuls les fous donnent une hiérarchie aux actes, » fit Wolf. « Tout est affaire de circonstances, et tout dépend de la conscience qu'on y met.
Tu as réussi à assassiner en toute conscience ?»
Wolf dévisagea le chauffeur avec froideur. Son œil gauche brillait en haut de sa joue rongée comme un astre bleu pâle au-dessus d'une terre brûlée.
« Au risque de te décevoir, Moram, la réponse est oui. Et je n'ai qu'un seul regret, Mirgwan. Tous les autres, je les ai tués de mon mieux, en pleine connaissance de cause. Quelle différence ça fait entre toi et un satané chien ?
Aucune. Je n'ai pas la prétention de faire partie des créatures supérieures.
Mère Nature a fait de moi un assassin, et quand elle m'a placé devant la nécessité de tuer, j'ai accompli ses volontés.
Mère Nature ne t'a jamais placé devant la nécessité d'égorger la mère de ton propre fils.
Je devrais sans doute dire non. Je l'ai regretté toute ma vie. Mais j'avais mon libre arbitre, et je l'ai fait.
Quel libre arbitre ! Bordel ! Est-ce que la saloperie qui te bouffe la joue t'a laissé ton libre arbitre ?
Wolf écarta d'un revers de main un insecte qui volait à quelques centimètres de sa tête.
Il ne m'appartient pas de juger des causes. Nous naissons tous avec certaines particularités génétiques, avec nos outils. Si nous savions chérir nos faiblesses, nous éviterions sans doute bien des erreurs. J'en revendique une seule, mais de taille. Celle d'avoir un jour voulu ressembler à l'homme que je ne suis pas. »
D'un bref regard, Moram consulta Solman qui se tenait quelques pas en arrière en compagnie d'Ismaïl et de Khadija.
Sans doute l'humanité pourrait-elle reprendre cette formule à son compte, dit le vieil homme. Elle a passé son temps à essayer de ressembler à une image qu'elle n'est pas.
Le crépuscule tomba avec une rapidité qui les prit au dépourvu. Le printemps précoce leur avait déjà fait oublier qu'ils étaient en plein cœur d'une période où les nuits étaient plus longues que les jours. Ismaïl avait rejoint Moram et Wolf dans la cabine du camion, prétendant que les matelas étaient trop douillets pour ses vieux os, qu'il avait besoin de l'inconfort d'un siège pour rester vigilant, pour ne pas glisser dans la mort sans s'en apercevoir. Solman le soupçonnait, en réalité, d'avoir saisi ce prétexte pour les laisser seuls, Khadija et lui, dans la remorque. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour nous dire que l'Île-de-France était le lieu du rassemblement des tribus ? La question de Solman la sortit de la léthargie dans laquelle elle se cantonnait depuis qu'ils étaient repartis.
« Je vous l'ai dit dès que j'en ai eu la confirmation. »
Si je comprends bien, nous avons de la chance que les tribus aient choisi l'Île-de-France. Elles auraient pu décider de se réunir dans une autre partie d'Europe ou sur un autre continent. Elle se redressa et tira sur le bas tire-bouchonné de sa robe.
La chance ou le hasard n'a pas sa place dans l'Escato. La tribu de l'espace, Benjamin, est celle qui a le plus de chemin à parcourir. Il lui revenait de choisir le lieu du rassemblement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas certaine qu'il tiendrait compte de mes suggestions.
Pourquoi ?
L'Escato ne tolère pas qu'on remette en cause ses enseignements. Le trouble est incompatible avec la pureté du Verbe.
Solman se rapprocha d'elle jusqu'à ce que leurs visages se frôlent. Il agrippa une barre de renfort du montant de la remorque pour éviter que les chaos ne le projettent sur elle.
Qui est l'Escato ? Il lui sembla déceler une expression fugitive de terreur dans les yeux de Khadija.
Les mots sont insuffisants pour décrire le verbe. L'Escato vit en moi comme il vit dans chacun des membres des tribus. C'est le gardien de la sainteté, de l'immortalité.
Il n'est pourtant pas intervenu pour empêcher la mort de Catherine. Elle se renversa en arrière et resta un petit moment l'arrière du crâne collé au montant métallique. Le haut de sa robe dégageait une vague odeur de bile.
Elle avait sans doute franchi un point de non-retour,
dit-elle d'une voix songeuse, hachée par les vibrations de la remorque.
Je suppose que l'Escato a également le pouvoir de renier ceux qu'il a élus.
Élus sur quels critères ?
Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.
Ismaïl a parlé d'une forme d'allergie tout à l'heure, mais c'est lui, l'Escato, qui t'a fait vomir tout ce que tu as mangé, n'est-ce pas ? Elle acquiesça d'un clignement des paupières.
Mes défenses immunitaires se mettent en action dès qu'elles détectent une entropie. Un risque de dégradation de l'information, ajouta-t-elle. Pour le verbe, la transformation des aliments est un mécanisme du temps.
Et si je t'embrasse, comment réagiront tes défenses immunitaires ? Les lèvres de Solman s'écrasèrent sur celles de Khadija avec une telle soudaineté qu'elle n'eut pas le temps de répondre. D'abord tétanisée, elle garda les dents serrées, résistant à la langue qui tentait de forcer l'entrée de sa bouche. Puis, en elle, se déclencha le même processus que face à l'agression de Tchak. Il lui fallait éliminer l'intrus qui cherchait à lui ravir son intégrité de sainte. La puissance de l'Escato se déploya à travers elle, un mélange d'informations, de détermination et de force qui transformait son corps en une machine précise, implacable, invincible. Il lui suffisait désormais de choisir l'un des nombreux points névralgiques de Solman, les yeux, la gorge, le plexus solaire, le foie, le ventre, les testicules, pour le mettre hors d'état de nuire, définitivement. Elle arma le bras et dans un premier temps le frappa au défaut de l'épaule pour l'amener à desserrer l'étreinte. Il marqua le coup d'un gémissement étouffé et d'un léger retrait du buste. Mais contrairement à ce qu'elle avait prévu, il ne céda pas un pouce de terrain et garda les lèvres collées sur les siennes. D'un mouvement circulaire, elle lui asséna un deuxième coup sous les côtes. L'expiration prolongée de Solman lui lécha le bas du visage. Comme ces combattants du temps des hommes dont elle gardait quelques images en mémoire, il se laissa tomber sur elle et appuya de tout son poids sur ses bras pour restreindre sa liberté de mouvement. Elle se débattit pour lui échapper, envahie par un début de colère qui ressemblait étrangement à de l'affolement, à de l'impuissance. Le verbe se troublait. Ses informations se brouillaient. Sa détermination s'étiolait. Les sensations ineffables qu'elle avait découvertes sur l'herbe humide de la colline venaient de temps à autre flotter à la surface de son esprit. Elle tenta encore de marteler le dos de Solman, mais ses muscles ne lui obéissaient plus, ou de manière parcimonieuse, comme s'ils n'étaient plus que les lointains réceptacles d'une volonté défaillante. Elle n'avait pas ressenti ce genre de faiblesse devant Tchak parce qu'elle n'avait jamais désiré être caressée par les mains et le souffle du chauffeur. Solman réveillait le chant d'une autre vie, antérieure à l'Escato. D'une vie dont l'aspect éphémère donnait du prix aux actes. D'une vie où les sceaux n'existaient pas, où chaque décision, même si elle conduisait à l'échec, se prenait à l'aune de cette liberté inconcevable que Wolf et Moram avaient appelée libre arbitre quelques heures plus tôt. Un reste de conditionnement poussa Khadija à se tordre comme une furie pour échapper à l'emprise de Solman. Sa robe se retroussa jusqu'à sa poitrine, dénudant ses jambes et son bassin. Elle se rendit compte que des gouttes tièdes sinuaient entre ses seins. Elle perdait de l'eau, elle transpirait. Une sensation nouvelle pour elle, pas si désagréable d'ailleurs. Les mains de Solman, insaisissables, s'égaraient sur ses jambes, sur son ventre, sur sa poitrine,
semait des ondes de chaleur qui se propageaient sur son corps et achevaient de démanteler ses défenses immunitaires. Elle avait l'impression de baigner tout entière dans une moiteur trouble, femelle. Elle n'avait connu que le sec, le stérile, durant son séjour dans la station spatiale, durant toute son existence par conséquent, puisque sa vie consciente avait commencé avec son éveil dans la station de Benjamin, où les capteurs hygrométriques éliminaient impitoyablement de l'atmosphère tout facteur potentiel de dégradation, d'entropie. Les défenses de l'escato changèrent de stratégie et libérèrent des flots d'antigènes. Submergée de dégoût, vidée de ses forces, Khadija s'affaissa de tout son long sur le matelas.
« Laisse-moi, par pitié !» balbutia-t-elle.
Solman intensifia ses caresses, lui parcourut la nuque et le dos du bout des lèvres. L'odeur de leurs deux corps emplissait la remorque, une odeur musquée, puissante, envoûtante. À chaque battement de cœur, Khadija percevait les vagues d'antigènes déferlant dans ses veines, dans ses cellules, de plus en plus agressives, de plus en plus violentes. Au dégoût succédait maintenant la douleur, si intense qu'elle en eut le souffle coupé, qu'elle n'eut pas d'autre ressource que de s'enrouler sur elle-même, déchirée, précipitée dans le gouffre qui se creusait entre ses désirs de femme et sa nature de sainte. Traversée par un sursaut de révolte, elle n'esquissa cependant aucun geste quand Solman acheva de lui retirer sa robe. Les mains et la langue de l'intrus s'insinuaient désormais dans tous les recoins de son corps sans défense, dans sa bouche, dans son cou, sur ses seins, entre ses cuisses, entre ses fesses. Le feu de l'escato la dévorait jusqu'au bout des ongles. Elle n'était plus qu'une incarnation de souffrance, une porte d'affliction.
« Laisse-moi !»
Solman s'écarta enfin d'elle. Et curieusement, elle le regretta. Elle demeura allongée sur le matelas, refermée sur sa brûlure tremblante de tous ses membres, incapable de prendre une décision, d'esquisser un mouvement. Elle discerna des froissements, tourna légèrement la tête, s'aperçut que Solman se dévêtait à son tour. Il était encore temps pour elle de se soumettre à la volonté du Verbe, d'éloigner le spectre de la souffrance, de la mort. La lumière empourprée du crépuscule tombait des interstices de la bâche et teintait de sang l'intérieur de la remorque.